Dans une démarche de marketing durable, si on pense d'abord aux autres, au bien qu'on fait, à la communauté, à l'environnement autour de nous, on a plus de chances de succès que si on est égocentré et qu'on pense à notre seul business.
En toute transparence.
On ne fait pas l'économie d'innovation et d'énergie pour trouver des alternatives et répondre à cet enjeu-là. Tout simplement parce qu'on a aussi une conviction, c'est que la mobilité individuelle est un droit fondamental de l'homme.
Le podcast En toute transparence a été imaginé en partenariat avec l'ADEME.
Bonjour à tous, je suis David Garbous, fondateur du collectif Réussir avec un marketing responsable et du cabinet Transformation Positive. Bienvenue dans ce nouvel épisode de En toute transparence, le podcast qui raconte les succès des entreprises qui intègrent la RSE au cœur de leur offre. Dans ce podcast, je vous partage des initiatives inspirantes, sélectionnées grâce à notre collectif, en invitant celles et ceux qui les ont rendues possibles. Ils nous expliquent en toute transparence les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment ils les ont contournées et nous donnent les clés pour réussir. Et pour la saison 3 de ce podcast, nous avons toujours avec nous en studio des étudiants qui, après avoir écouté avec attention nos invités, nous diront en fin d'émission comment ils décryptent ce discours de marque avec leurs yeux particulièrement attentifs au sujet d'engagement. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être dans le studio de Sciences Po et nous allons avoir de belles questions en fin d'épisode, j'en suis sûr. Dans cet épisode de En toute transparence, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Alifa, qui est VP Renault Marketing Brand Content pour Renault HQ. Alors cher Laurent, bonjour.
Bonjour David.
Je voudrais qu'on commence par décrypter cette phrase magique qui est sur votre profil LinkedIn. Qu'est-ce que ça veut dire VP Marketing Brand Content Renault HQ?
Tout simplement, je suis le patron d'une petite usine, petite manufacture, à produire des contenus, des contenus marketing, pour pouvoir parler, magnifier la marque Renault. Alors quand je dis petit, c'est un euphémisme parce que on s'est réorganisé il y a 3 ans et on produit l'ensemble des contenus pour la marque, pour l'ensemble des besoins, quel que soit le sujet, quel que soit le pays.
Vous produisez tout en interne du coup ?
Non, on produit avec nos agences partenaires et notamment le groupe Publicis.
D'accord, et donc vous avez tout un écosystème autour de vous, mais c'est vous qui pilotez cet écosystème.
Exactement.
Et j'ai vu que vous étiez tombé dans l'automobile quand vous étiez petit, puisque vous avez commencé chez Volkswagen, si je me souviens bien. Vous avez fait un passage chez Fiat avant d'arriver chez Renault, c'est ça ? C'est une passion d'enfant ? Comment vous êtes arrivé dans ce secteur ?
Alors, l'histoire, elle est assez simple. J'étais en école de commerce et j'ai eu l'occasion de faire un stage chez Volkswagen qui n'était pas très loin de Reims, là où j'ai fait mes études. Et ce que je voulais faire, c'est du marketing et de la publicité. Je dirais que c'est presque le hasard, pas tout à fait. Il y a quand même un affect avec le produit automobile dès le plus jeune âge.
Il n'y a jamais de hasard.
Il n'y a jamais de hasard. Mais ça a démarré comme cela et je suis rentré dans l'automobile et j'en suis jamais sorti. J'ai fait une petite carrière jusqu'à présent, 100% automobile, où j'ai varié les profils des constructeurs, des germaniques, des latins.
Voilà. Et des cultures différentes, toujours dans la verticale marketing plutôt, avec les différentes facettes du métier.
Oui, c'est ça. Toutes les facettes du métier marketing, communication, du CRM, du digital, des réseaux sociaux, de la publicité, tout cela.
Excellent. Merci Laurent. Écoutez, je suis ravi de vous recevoir parce que on va parler d'un sujet assez incroyable puisqu'on va parler de mobilité. Je dis incroyable parce que c'est un sujet qui nous concerne tous au quotidien. On a tous besoin d'utiliser les outils de la mobilité. Et en même temps, on a vu dans une étude récente que les transports, c'était 32% des émissions de gaz à effet de serre en France en particulier. C'est la première source d'émissions de gaz à effet de serre pour les Français. Et puis, on sait que les émissions liées au transport, pas seulement, aussi au chauffage, elles ont des impacts importants sur la santé. Donc, c'est à la fois un sujet sur lequel il y a un besoin impérieux qui nous concerne tous et des risques associés. Et donc, il y a un enjeu que vous avez posé notamment dans votre raison d'être, qui est celui de travailler sur une mobilité, on va dire, plus durable pour employer les termes convenus. Et on va le détailler ensemble. Gros impact et donc gros sujet d'innovation sur lequel on va travailler aujourd'hui. Alors, quelques mots pour commencer donc sur le groupe Renault. Vous êtes né en 1898, vous êtes une vieille dame.
125 ans cette année.
Et c'est un anniversaire, d'accord. C'est vrai que j'aurais pu le calculer. Vous êtes présent dans 134 pays sur tous les continents. Vous avez réalisé donc un chiffre d'affaires de 52,4 milliards d'euros en 2023. 13% de croissance. Vous êtes numéro 2 en Europe. 1,5 million de voitures vendues dans le monde en 2023. C'est des chiffres qui donnent le vertige. Vous avez commencé à investir donc de manière, on va dire, visible pour les consommateurs dans cette mobilité que je qualifiais tout à l'heure de plus durable, notamment avec l'arrivée sur le marché de la Renault Zoé en 2013. Est-ce que vous êtes le premier constructeur en Europe, en France ?
On a clairement été précurseur avec Zoé en 2013. On a cru avant tout le monde dans les avantages, les bénéfices de la conduite 100% électrique.
Excellent. Et c'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion de tester cette voiture très tôt parce que j'étais chez Fleury Michon à l'époque en 2013 et j'utilisais une Zoé pour faire les trajets entre la gare d'Angers et le siège de l'entreprise. Alors, j'ai pu apprécier les bénéfices de cette conduite. C'est vrai qu'une fois qu'on a essayé un véhicule comme ça, on réapprend à conduire d'une certaine façon.
Et à propos de Zoé, pour l'anecdote, nous avons terminé sa fabrication il y a quelques jours à peine à l'usine de Flins.
D'accord.
C'était fin mars. Et nous avons fait une petite communication, elle n'a pas été très visible pour l'instant. On s'est amusé à calculer les émissions de CO2 évitées pendant toute la carrière, toute la longévité de Zoé. Entre 2013 et 2024, avec toutes les Zoé qui ont été mises sur la route.
Et les kilomètres qu'elles ont parcourus,
c'est ça ? Et les kilomètres qu'elles ont parcourus. Et c'est un chiffre frappant, impressionnant, de 3 200 000 tonnes de CO2 évitées.
Et ben voilà, on parlait de gros impacts et de gros sujets d'innovation. On est au cœur du sujet. Alors, en avril 2021, vous avez présenté à vos actionnaires votre raison d'être. Et elle se formule de la façon suivante. Vous dites « Nous faisons battre le cœur de l'innovation pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. » Est-ce que, entre 2021 et aujourd'hui, il y a déjà des choses en dehors de ce dont on va parler de l'application qui voilà, font particulièrement écho à cette phrase qui sont visibles par les clients aujourd'hui ? Ou est-ce que vous êtes en train de travailler dessus et l'application dont on va parler en fait partie.
À propos de battre le cœur, l'objectif et toute l'énergie consacrée au redressement de l'image de marque et de la marque, de la santé de la marque Renault, tous les efforts convergent pour créer de la valeur, faire de Renault ce que l'on appelle en interne une love brand, recréer un lien affectif, le redensifier comme il a pu exister par le passé. Et tous nos efforts donc convergent pour injecter dans l'expression de la marque des liens émotionnels, des raccourcis émotionnels avec des bons souvenirs de la marque du passé, mais aussi inscrire la marque Renault véritablement comme une marque battante, compétitive dans un environnement qui a complètement changé de façon à nous armer pour les challenges qui arrivent.
Et c'est vrai que les challenges, ils sont énormes dans cette industrie. La Commission européenne en particulier qui a dit fin de la vente des véhicules thermiques à 2035. Ça a été presque un ultimatum posé à l'ensemble des constructeurs avec ce sujet de santé publique à la clé. Donc c'est rare qu'il y ait une décision aussi forte qui soit prise. Vous aviez pris un peu d'avance avec Zoé en 2013. Vous êtes en train de développer votre écosystème et vos innovations. On parle vraiment d'innovation dans ces dispositifs pour pouvoir être à la hauteur de zéro véhicule thermique à 2035.
Ah oui, clairement, c'est non seulement de l'innovation, ce sont d'énormes investissements pour changer de paradigme, changer de mode de production, changer d'énergie. Voilà, c'est l'illustration parfaite de la transition énergétique. On a développé un label chez Renault, le label E-Tech, qui est la marque ombrelle de nos solutions en matière d'électrification, l'hybridation, et puis également le 100% électrique. Et on ne cesse de marteler cette marque comme étant une valeur nouvelle pour nos clients et un point de repère dans l'univers concurrentiel pour montrer les points de supériorité que nous développons et qui sont effectivement le fruit d'innovation. On a la chance, donc je l'ai cité, on a 125 ans d'ancienneté. On a un passé très fort en matière de Formule 1, de développement de moteurs. C'est ça d'ailleurs qui nous a permis l'hybridation développée sur les pistes de compétition, nous a permis de transférer cette innovation dans la voiture de monsieur et madame tout le monde.
La Formule 1 pour l'automobile, c'est un peu comme l'espace pour un certain nombre d'industries, c'est ce qui...
Un
terrain d'expérimentation en pointe. Et vous développez ça derrière en mass market, d'accord?
Exactement.
Alors vous avez affiché sur votre site être non plus seulement constructeur d'automobile, mais aussi opérateur de mobilité durable. C'est vraiment le sujet dont on va parler maintenant. Le comité de sélection a retenu en effet le lancement de votre application plugin en mars 2023. C'est un réseau, donc je crois qu'on peut dire le premier réseau de bornes de recharge de véhicules électriques entre particuliers sur un maillage régional. Cette application, elle s'inscrit dans la catégorie implication des consommateurs de notre palmarès 2023. La force de cette application, c'est qu'elle met en relation les possesseurs de véhicules électriques avec des particuliers qui disposent d'une installation de recharge. Mais donc, avant de rentrer dans les détails de l'application, qu'est-ce que vous mettez chez Renault derrière le terme de mobilité durable? On a parlé d'électrique tout à l'heure, vous avez parlé d'hybride. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Je dis n'importe, les vélos, les trottinettes, est-ce que ça fait partie des sujets sur lesquels vous travaillez? Est-ce que, voilà, quel champ de sémantique vous avez derrière ce terme de mobilité durable?
Non, en termes de produits, on est concentré sur l'objet automobile. On a peu de diversification dans des objets tels que les engins de déplacement individuels, le vélo ou la trottinette. Ceci étant dit, nous développons sous la marque Mobilize un produit innovant, petit format, idéal pour la ville, qu'on appelle Duo. Et la version utilitaire, c'est Bento. Voilà, c'est un petit peu, je dirais, le successeur du Twizy, qui également a été précurseur en son temps. Ce sont des solutions complémentaire, pas alternative, puisque ça ne remplace pas une berline familiale, mais c'est complémentaire et ça répond à des usages nouveaux. Donc c'est pour ça qu'on élargit le champ lexical et qu'on parle de mobilité. La notion de durable, elle est assez simple et je pense que c'est désormais une évidence et elle n'est pas spécifique pour moi ou pour nous chez Renault. Il y a un véritable enjeu d'avoir un impact moindre sur notre environnement.
Très clair.
Et on fait pas l'économie d'innovation et d'énergie pour trouver des alternatives et répondre à cet enjeu-là. Et tout simplement parce qu'on a aussi une conviction, c'est que la mobilité individuelle est un droit fondamental de l'homme. Et on se dit que mieux vaut corriger le tir plutôt que de se voir privé de ce droit fondamental.
C'est vrai que la critique est facile, mais c'est aussi quelque chose qui nous a énormément collectivement apporté, cette capacité de déplacement. Et effectivement, il y a le défi qui est devant nous, c'est un défi de réinvention de la façon de se déplacer. Et pour l'instant, les solutions qui semblent faire consensus, c'est des alternatives type électrique, hybride. Est-ce que sur l'hydrogène, c'est des sujets sur lesquels vous travaillez ou c'est pas... Vous travaillez aussi sur ces sujets-là?
Oui, on prépare l'avenir avec l'hydrogène également.
D'accord. Et certainement qu'il y a d'autres solutions de mobilité qui émergeront dans les années qui viennent. Pour l'instant, on va se concentrer sur les sujets sur lesquels vous travaillez. Est-ce que vous pouvez nous dire, en gros, aujourd'hui, quelle est la part des voitures thermiques que vous vendez par rapport aux alternatives aux thermiques? Et puis, comment vous voulez voir évoluer cette proportion en 2030? C'est une question un peu évidente, puisque 2035, ça doit être à zéro. On part d'où, à peu près?
Bon, alors, clairement, le marché est en pleine transformation. On observe la baisse de la commercialisation et des ventes des moteurs 100% thermiques au profit 1 de l'hybridation.
D'accord, en premier,
c'est ça qui monte en flèche, que ce soit en France ou partout ailleurs en Europe. Et deuxièmement, c'est l'avènement du marché électrique. Alors un mot sur ce que l'on peut entendre là encore récemment, et notamment en France, si vous avez écouté les commentateurs sur le mois de mars, ça y est, l'électrique s'enraye.
Très bon point, oui.
Alors moi, je tiens à rétablir une vérité, une réalité. Il faut tout simplement pas oublier une actualité hyper récente, hein, on ne devrait pas l'oublier. Il y a eu en début d'année un dispositif fabuleux du gouvernement, le leasing électrique. Ça a été un formidable succès.
D'accord.
Donc les carnets de commandes des constructeurs, nous entre autres, mais également nos concurrents de Stellantis, les carnets se sont remplis pendant cette période-là. Donc forcément, le mois suivant, au mois de mars 2024, on observe
un décrochage, oui.
Un tassement. Donc attention, avant de tirer des conclusions définitives en disant que ça y est, le marché s'enraye et que les clients ne veulent plus d'électrique, ce n'est pas vrai.
Donc quand on regarde effectivement à un peu plus long terme et qu'on isole cet effet booster qui a été celui de la prime, vous voyez, vous, une progression continue. Vous avez une visibilité en plus qui est depuis 2013 avec Zoé, ça a commencé doucement, on sait Zoé, et puis ça s'est extraordinairement développé ensuite, et vous dites pas d'effet d'aubaine, très bien.
Oui, donc ça va se développer, l'horizon 2030 est assez proche, 2035 aussi, même s'il y a des discussions sur les modalités qui pourraient être révisées, la tendance de fond est là, l'électrification est une tendance de fond en Europe et ailleurs. Les Chinois sont à fond sur l'électrique, donc selon toute vraisemblance, il ne va pas y avoir de retour en arrière. Et quand bien même, encore une fois, en mars 2024, le mois dernier, il s'est vendu plus de diesel que d'électrique, c'était un épiphénomène.
Merci pour cette mise au point, c'est très intéressant. Bah justement, à travers l'application Plug-in, vous adressez un des freins qui reste sans doute encore un petit peu présent dans l'esprit des consommateurs à l'adoption d'un véhicule électrique, c'est la peur. L'autonomie des véhicules progresse d'année en année, mais néanmoins, il y a toujours cette inquiétude quand on voit le petit signe de la batterie clignoter comme sur son téléphone, on se dit « oulala, la voiture va peut-être s'arrêter comme mon téléphone » et donc on prend peur. Et donc vous avez réfléchi à une façon d'adresser cette inquiétude en démultipliant les points de recharge. Ça veut dire que vous considérez que le développement des infrastructures actuelles, il n'est pas assez rapide ou qu'il y a une opportunité pour aller en dehors des sentiers battus, peut-être des grands axes, proposer des solutions à vos clients.
Oui, le point de départ du projet qui s'est concrétisé dans l'application Plug-in, ce service communautaire, ça a été de regarder et d'analyser les chiffres aujourd'hui et dans la perspective des années suivantes. On a clairement vu une opportunité dans le sens où le développement des ventes de véhicules électriques avait un rythme beaucoup plus soutenu que les prévisions d'installation d'infrastructures de recharge publique. Donc nous nous sommes dit, travaillons, réfléchissons à une idée pour non pas être une alternative, mais un complément. Et en s'adressant aux zones les plus reculées, celles qui bénéficient et bénéficieront le plus tardivement des infrastructures publiques qui vont finir par arriver. J'ai regardé quelques chiffres sur, alors c'est sur la zone Europe. On a un objectif en 2030 de baisse de 55% des émissions de CO2.
D'accord.
Pour cela, il y aurait un besoin de 6,8 millions de bornes de recharge. Donc on est loin de cette installation-là. Actuellement, il y a en Europe 2000 stations de recharge qui se construisent par semaine. Il en faudrait 14 000. Il faudrait qu'on soit à un rythme de 14 000.
On va à un septième de la vitesse à laquelle on devrait aller.
Exactement. On devrait atteindre, à cet horizon-là, 180 stations de recharge tous les 100 km. On en est encore très loin. Il y a même certains pays, ils sont minoritaires, mais il y a quand même encore en Europe des pays pour lesquels il y a zéro station de recharge tous les 100 km. Voilà, donc il y a une marge de progrès qui est absolument phénoménale. Donc c'était une des raisons principales de créer ce service plug-in. Et on s'est inspiré du modèle communautaire de location d'appartements entre particuliers.
D'accord.
Pour développer ce service d'entraide. Et on s'adresse bien évidemment aux précurseurs, en anglais dans le terme, les early adopters de l'électrique, qui cherchent toutes les solutions pour pouvoir basculer à l'électrique et enlever une raison, un frein à l'achat, qui est justement, comme vous l'avez mentionné, cette peur de l'autonomie. Et on fait beaucoup de pédagogie pour expliquer aussi que le véhicule électrique peut s'envisager dans différentes configurations, déjà dans un usage quotidien, urbain, quand on regarde le relatif faible kilométrage que l'on fait oui, ça c'est... au quotidien, dans une journée ou dans une semaine, les autonomies d'ores et déjà actuellement proposées par l'ensemble des produits, que ce soit chez nous ou même chez les concurrents, ça permet de couvrir ces besoins-là. Donc le besoin moyenne, d'autonomie, c'est 60 km
par jour. En moyenne,
exactement. Okay. Donc les besoins d'un véhicule qui peut nous amener de Paris à Royan pour les vacances, c'est pas pour tous les jours.
D'accord.
Mais si jamais on devait faire cette distance-là avec un véhicule actuel, eh bien, il y a désormais des solutions différentes. Les infrastructures publiques, merci aux opérateurs qui accélèrent le pas. Et puis, il y a aussi donc notre solution plug-in pour aller se recharger chez un particulier.
Alors, comment ça marche ? Expliquez-nous. Donc, vous avez développé une application qui permet d'identifier, j'imagine c'est un phénomène de géolocalisation, des lieux sur une carte qui sont équipés de bornes de recharge. Ces lieux, c'est des endroits qui sont situés chez des particuliers, c'est bien ça ? Et vous proposez, grâce à l'application, de rejoindre au conducteur, de pouvoir rejoindre ces lieux et de se connecter sur une borne de recharge. Est-ce que c'est des bornes de recharge équivalentes à celles qu'on trouve sur les autoroutes qui sont très rapides, ou c'est un peu plus lent, c'est très modulaire en fonction des installations de particuliers ? Comment ça marche ?
Oui, alors l'équipement chez les particuliers, les différents des infrastructures publiques, on n'est pas sur des charges rapides, ouais. à haute puissance. On est en général sur du 7,4 kW. Ce sont des solutions qui sont couramment répandues. Ce que je voulais souligner, c'est que quand on utilise l'application, on peut soit regarder sur une cartographie un endroit précis, une destination, et regarder les différentes offres qui sont possibles. Et plus récemment, on a rajouté une fonctionnalité où on peut dire « voilà mon point de départ, voilà mon point d'arrivée, indique-moi quelles sont, sur mon trajet, les bornes qui seront disponibles ».
D'accord, comme ça on planifie le trajet à l'avance.
C'est la planification, et surtout le bénéfice que l'on propose, c'est de pouvoir réserver à l'avance, d'accord, sa borne chez un particulier. Parce que vous ne pouvez pas faire cette réservation sur une borne que vous trouvez dans la rue.
Ah oui, donc là, effectivement, en planifiant votre trajet, vous pouvez dire, vous pouvez être sûr, en fait, en arrivant, que la borne sera libre pour vous.
Exactement.
Excellent. Alors, comment ça marche ? Ce qui avait été mis en avant, au moment de la remise de prix, c'est d'abord la capacité, la rapidité avec laquelle vous avez développé cette application. Donc, j'imagine que l'analyse stratégique, vous l'aviez faite depuis longtemps. Je voulais faire un clin d'œil à ces partenaires qui permettent d'augmenter une idée de manière incroyable en mettant en place des ressources. Et là, il semblerait que ça a été le cas. Entre l'idée et la version 1 de l'application, vous avez eu un délai très très court de développement, c'est ce que j'ai compris.
Oui, c'est assez court. Alors, c'est quand même quelques mois, entre 6 et 9 mois. Mais ça a été extrêmement rapide. On a travaillé en circuit fermé au sein du groupe Publicis. L'idéation et tout le marketing du projet, ça a été fait avec nos partenaires de Publicis Conseil. Et ensuite, le gros du travail, la fabrication de l'application avec Sapient.
D'accord. Et donc là, la version 1 de l'application sort. Vous avez votre premier réseau, vous avez les premiers utilisateurs. Un point qui nous a particulièrement intéressé dans le comité de sélection, c'est que vous avez décidé, je crois dès le début, mais corrigez-moi si ça a été fait ensuite, de mettre cette application en open source, c'est-à-dire que on peut venir se charger si on a un véhicule Renault, bien entendu, mais si on conduit un véhicule d'une autre marque et qu'on a chargé l'application plugin, on peut aussi utiliser ce réseau. C'est bien ça que vous avez décidé de faire.
Oui, ça c'est un peu notre caractère et notre côté militant chez Renault, où l'intérêt général dépasse l'intérêt individuel, et on s'est dit qu'il y avait véritablement aucune raison de nous limiter au seul client Renault, quand bien même on avait un parc le plus important du fait de l'ancienneté de Zoé, qu'on mentionnait tout à l'heure. Mais l'enjeu est tellement important qu'on invite n'importe quel client de nos concurrents à utiliser le service. Ça nous paraissait être une évidence. Donc le caractère open source faisait partie de la conception initiale de l'application.
Alors, dans le dossier, on avait vu des éléments sur le nombre de téléchargements. Peut-être que vous avez des chiffres un tout petit peu plus à jour, parce que ça datait de l'année dernière. Quand ça continue de progresser avec le même rythme qu'au départ, et entre le nombre de téléchargements et puis le nombre de recharges effectives effectuées, comment ça se passe ?
Alors oui, tout simplement vous partagez des chiffres actualisés. On a près de 81 000 téléchargements d'applications qui ont été réalisés. On a 23 000 utilisateurs qui sont enregistrés. Parmi ces 23 000 utilisateurs, on en a 21 000 qui sont avec un profil complètement renseigné, des utilisateurs actifs. À l'intérieur de ces 21 000, on a grosso modo 17 000 conducteurs et 4 000 hôtes qui accueillent chez eux des véhicules pour la recharge. Et si on parle de bornes, on a 2800 bornes qui sont enregistrées et accessibles sur la plateforme. Et à l'instant où je vous parle, parce que les gens décident de les publier ou de les retirer en fonction de leur disponibilité, on a à peu près un peu plus de 1100 bornes qui sont réservables à l'instant T.
Le particulier, son intérêt, c'est de toucher un peu d'argent, j'imagine, ou de faire des rencontres, je ne sais pas.
Est-ce que vous un peu des deux. Un peu des deux.
Il y a une dimension sociale.
On ne devient pas riche en étant propriétaire d'une borne et en l'ayant mise en accès sur plugin. Le gain est intéressant, mais il reste quand même marginal. Donc la motivation, elle est plus dans l'esprit de faire partie de cette communauté des premiers, des early adopters, et ce souci de bienveillance. Et si j'étais à la place d'eux, j'aimerais bien pouvoir me recharger. Voilà, on est sur cet esprit-là. Donc on ne devient pas riche en étant utilisateur de l'application.
Et pour le conducteur, il est facturé sur la base de la recharge ou c'est un service
Alors, on est une plateforme d'intermédiation. Chaque utilisateur est libre de fixer ses propres tarifs.
D'accord.
Le principe de tarification, il est non pas à l'énergie consommée, mais au temps passé.
D'accord.
Et on suggère un tarif de 4,50 € de l'heure de chargement, ce qui, dans l'environnement concurrentiel et par rapport à l'offre, le ratio offre-demande, on est plutôt bien positionné, on est compétitif et c'est aussi tout l'intérêt des propriétaires de bornes d'être attractif et de ne pas être trop gourmand, déraisonnable dans la fixation du tarif.
Pour ne pas être déconnecté du marché, très clair. Ce qu'on aime bien évoquer dans ce podcast, on a commencé à le faire, c'est au-delà de la belle histoire, parce que c'est objectivement une histoire intéressante que vous nous racontez. Forcément, dans la mise en place d'un projet comme ça, il y a des embûches, il y a des trucs qui ne marchent pas. Et on aime bien décortiquer les difficultés que vous rencontrez et comment vous réussissez à les contourner, parce que ça nous arrive à tous. Et c'est inspirant aussi de voir comment on arrive à trouver des solutions. Alors, est-ce que vous pouvez en donner une, deux, en fonction de votre inspiration du jour ?
Je réfléchis à la question parce que finalement, je me dis, mais quelles ont été les vraies difficultés ? J'en vois pas une en particulier d'évidente. Il y a peut-être plusieurs aspects de points de vigilance plus que de difficultés. C'est un service complexe avec un enjeu d'adoption très clair. Il faut qu'on fasse comprendre ce qu'est ce service, quel est le bénéfice. Il faut qu'on soit rassurant pour les utilisateurs, qu'ils soient propriétaires de bornes ou de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Parce que quand vous invitez des gens à se mettre en connexion, je faisais référence à une plateforme bien connue pour l'hébergement. On n'accueille pas chez soi n'importe qui, on a quand même envie de savoir à qui on s'adresse.
Bien sûr.
Donc il y a aussi tout un enjeu de rassurer et de montrer qu'on fait tout pour sécuriser la mise en relation et la transaction.
Ça veut dire que vous avez un système de notation des acheteurs-vendeurs, entre guillemets, un peu sur le principe de ce que vous évoquiez pour...
Exactement, ça fait partie, c'est un des éléments, c'est pas le seul, mais ça fait partie des éléments de réassurance pour faire en sorte que l'utilisation soit décomplexée et sans crainte. Je dirais qu'il y a ensuite, dans les difficultés que l'on a rencontrées, alors bien évidemment, pour que le service ait un intérêt, il faut qu'il y ait des bornes qui soient référencées. Donc la stratégie, la priorité a été au recrutement des propriétaires de bornes pour qu'ils puissent s'inscrire et publier leurs bornes. Et ensuite, on se rend compte à l'usage qu'il ne suffit pas d'avoir l'application installée sur son téléphone pour y penser. Donc, c'est un travail d'entretien, c'est du CRM, c'est de la relation client. Et on invite les personnes qui ont téléchargé l'application à l'utiliser. Donc on fait des campagnes régulièrement
pour se rappeler,
pour se rappeler voilà, à l'approche des beaux jours, à l'approche d'un week-end prolongé, pensez à planifier votre recharge. Voilà, donc plusieurs séries de communication pour susciter l'usage.
Et c'est vrai qu'on a tous plein d'applications installées sur notre téléphone dont on ne se sert pas nécessairement tous les jours. Et là, vous arrivez, vous, enfin, néanmoins, il y a une utilité par rapport aux besoins de mobilité, et je comprends bien l'utilité du CRM dans ce cas-là. Alors, les perspectives de développement du service, vous considérez que ce sera un truc hyper réussi si vous y arrivez à... Alors, comment vous mesurez justement le succès ? Est-ce que c'est le nombre de bornes installées dont vous parliez tout à l'heure ? Est-ce que c'est le nombre de recharges ? Est-ce que c'est la capacité pour notamment vos clients à être plus rassurés et se sentir bien accompagnés dans le développement de la conduite électrique ? Quels indicateurs de succès vous vous êtes donné ?
Oui, alors il y a différents indicateurs. Il y a des indicateurs quantitatifs, et notamment le principal que l'on regarde, c'est la croissance, le taux de croissance des bornes visibles sur D'accord. l'application. Et ensuite, il y a un indicateur qualitatif d'image et on mesure tout le bruit positif généré par plugin depuis le lancement en mars l'année dernière. Et il est considérable. Voilà, on a réussi à imposer cette marque plugin qu'on a créée de toutes pièces, on en fait une référence, et c'est un peu le porte-drapeau de notre caractère innovant en matière de mobilité. L'actualité, c'est aussi une évolution constante. Et il y a quelques jours à peine, début avril, nous avons lancé une version enrichie de plugin, où désormais également les professionnels peuvent mettre leurs bornes à disposition des particuliers. Alors on va commencer par le réseau Renault. Nos agents et nos concessionnaires vont très rapidement, là, dans les prochaines semaines, pouvoir être visibles sur l'application. Et puis, assez rapidement derrière, on souhaite intégrer des réseaux d'enseignes ou des plus petites entreprises qui, elles aussi, disposent
d'une borne de recharge
pour leurs collaborateurs ou pour leurs clients. Voilà.
Oui, c'est vrai. Quand vous dites, est-ce que par exemple un hypermarché qui a installé des bornes sur son parking et on pourrait imaginer pouvoir la réserver via l'application à terme ?
Des hypermarchés, des hôteliers, des restaurateurs, okay. Voilà, tous les métiers, toutes les activités qui accueillent des clients avec des places de stationnement qui sont désormais équipées petit à petit de ces bornes.
Oui, ça multiplie effectivement les points de chute possibles et l'optimisation de l'investissement qui a été consenti par tous ces opérateurs pour mettre en place les bornes, c'est intéressant. Merci beaucoup pour ce point. Je voudrais conclure cette partie en vous demandant... d'après votre expérience, trois clés de réussite pour un projet de marketing durable. Et plus précisément, vous avez travaillé, vous, sur le changement d'habitude des consommateurs. Et on parle souvent dans les entreprises de la difficulté, une fois qu'on a produit une innovation qui permet un usage différent, de donner envie aux clients de les adopter. Vous avez particulièrement réussi sur ce point-là. Est-ce que c'est un point que vous vouliez souligner ou vous avez d'autres... éléments clés pour réussir un projet comme ça.
La question est intéressante, mais je suis en train de me demander s'il y a véritablement une différence entre les clés de succès d'un projet marketing quand il est durable ou quand il ne serait pas durable. J'ai envie de dire non, peut-être que j'apporterai de la nuance, mais pour moi, les piliers sont... alors, je commencerai par l'identification d'un point de tension et l'apport de solutions. Mmh. Si on ne commence pas par répondre à un besoin, une problématique identifiée, on est à peu près certain de se planter et de ne pas apporter quelque chose qui a de la valeur. Ensuite, je pense qu'en termes de bénéfices clients et d'usage, il faut prioriser ce facteur-là. Je veux dire que l'intérêt pour l'utilisateur est plus important que l'action, le bénéfice sur la marque. Je veux dire, j'insiste sur le fait que dans une démarche de marketing et de marketing durable peut-être, si on pense d'abord aux autres au bien qu'on fait, à la communauté, à l'environnement autour de nous, on a plus de chances de succès que si on est égocentré et qu'on pense à notre business, à notre seul business. Tout à l'heure, je soulignais et je répondais à une de vos questions sur le caractère open source. En ce sens, ça rejoint ce point. Quand on a conscience qu'on a un enjeu sociétal, collectif, sur un marché de transition énergétique, les solutions, elles se passent non pas à l'échelon de l'entreprise, mais elles se passent à l'échelon d'un continent, de nation. Voilà, donc l'enjeu, il est là. Et donc, l'obsession du bénéfice client, pour moi, est un des points de succès d'un marketing durable. Et puis, dernier point, je dirais, c'est notre devoir en tant que communicant, c'est d'utiliser la communication pour faire changer les comportements, faire évoluer les comportements et surtout faire prendre conscience que, au final, le changement, il s'atteindra par une somme de petits changements individuels et bien faire prendre conscience ou aider à cette prise de conscience qu'il ne faut pas attendre de l'autre ou un grand changement qui serait fait par un État et que chacun est concerné.
Ça évite de dire vous avez rien fait à tel ou tel acteur, mais chacun a un petit bout de la solution, c'est ça que vous...
C'est l'idée.
Un petit rebond aussi sur ce que vous disiez, les erreurs qui sont faites parfois par les marques sur les sujets de durabilité, c'est de mettre très fortement en avant, notamment dans la communication, la dimension, on va dire, bien fait pour la planète ou environnementale, et d'oublier, à travers cette communication très théâtralisée, de parler du bénéfice premier. Vous, le bénéfice premier, c'est la mobilité, le bénéfice premier, c'est la possibilité de pouvoir faire son trajet, et vous l'avez expliqué comme ça. Je pense que c'est important pour ceux qui nous écoutent de bien réécouter cette partie-là. Si vous mettez trop en avant juste cette dimension planète et que vous oubliez de parler du bénéfice premier, vous n'atteindrez pas aussi facilement votre objectif.
Il y a 2 ans, on a fait un film, un très beau film. Je suis hyper fier sur Capture, Renault Capture. On a eu l'audace, le courage de dire ce n'est pas parce que le véhicule est vertueux qu'il faut l'utiliser au quotidien.
Excellent, oui, je me rappelle de ce film.
Voilà, c'était un petit peu osé, on a voulu le faire, on s'est pas mal posé de questions, on s'est creusé la tête, est-ce qu'on y va pas. Et puis, on y est allé, je pense qu'on a eu raison de le faire et on a vraiment impacté, on a créé une réaction un peu inattendue, mais finalement une super réaction positive. Voilà, c'est pas parce que le véhicule émet moins de CO2 et consomme moins de carburant qu'il faut pour autant l'utiliser de façon systématique. Et voilà, c'est la première fois qu'un constructeur automobile a fait la promotion des mobilités alternatives tout en essayant de montrer qu'il y avait un enjeu à remplacer des vieux diesels par des nouveaux véhicules motorisés avec un moteur thermique.
Oui, dans ce cas-là, on comprend que la marque ne cherche pas uniquement un intérêt commercial, mais qu'elle cherche aussi à aider à changer les comportements, et ça change effectivement le regard qu'on porte sur la marque. Merci pour ce témoignage. Je pense qu'il pourra inspirer dans d'autres secteurs. Alors Laurent, avant de passer aux questions des étudiants, j'ai une question un peu rituelle dans ce podcast. J'aimerais que tu nous recommandes une bonne pratique à surveiller pour 2024, une expérience qui te semble intéressante, remarquable, qui mériterait de candidater et que tu nous expliques pourquoi.
On a un dispositif qu'on appelle Care Makers. Au-delà du marketing du nom, ça consiste en quoi ? On s'est rendu compte en fait que 54% des personnes en situation de recherche d'emploi refusent un emploi faute d'avoir un véhicule à disposition. Et donc on a imaginé au sein du groupe Renault un dispositif où on met à disposition un véhicule et on ne prélève pas de loyer jusqu'à ce que la période d'essai soit terminée. Et donc la première mensualité est prélevée à partir du moment où l'emploi est sécurisé. Voilà, donc et on fait un jeu de mots en disant il y a les voitures de fonction et il y a les voitures de future fonction.
Voilà. Et ça, c'est un dispositif qui sera prêt pour le mois de juin 2024, sur lequel vous aurez déjà des résultats ?
Alors, il est d'ores et déjà disponible, on commence à communiquer dessus. Est-ce qu'on aura des résultats ? Je l'espère.
Eh bien, ce sera le suspense. J'espère que ce sera suffisamment probant pour qu'on puisse en parler et en tout cas étudier ce dossier. Merci beaucoup pour cette partie, Laurent. Maintenant, je vais accueillir Louise et Nathan, et plus précisément leur porte-parole du jour qui est Bérénice. Car Louise et Nathan nous ont fait parvenir leurs questions et Bérénice va vous les donner, cher Laurent.
Bonjour Laurent, merci beaucoup pour toutes vos réponses qui nous ont appris beaucoup de choses sur Renault et sur Plugin. Louise a une question pour vous. Donc aujourd'hui, le monde des applications est très vaste, il est très compétitif et on le sait, une application, c'est d'abord des utilisateurs qui doivent être fidèles. Vous avez des actions de communication mises en place pour rassurer les utilisateurs, pour leur rappeler l'utilisation de l'application. Mais comment travaillez-vous l'image de marque, de plugin auprès des utilisateurs pour qu'ils soient fiers d'utiliser l'application ? Peut-être que vous avez recours à des utilisateurs ambassadeurs ?
Non, alors déjà, ce que je voulais souligner, c'est qu'on a une originalité, on a eu... Ou en tout cas, si c'est pas original, on a été jusqu'au bout de l'exercice pour donner toutes les chances à Plugin. Il y a peu d'applications qui sont présentes à la télévision. On est présent en télévision, alors dans des contextes programmes automobiles. Donc le dimanche matin, si vous regardez M6 Turbo ou bien Automoto, et si vous êtes devant l'écran pendant les spots publicitaires, vous voyez Renault Plugin de façon systématique. Il y a peu d'applications, comme je le disais, qui le font. Non pas que ce soit très cher, mais on a eu cette idée et elle nous a paru très pertinente, très maligne. Donc on a un plan média qui est vraiment ajusté au plus fin et on est présent dans ces contextes-là. Donc on rappelle régulièrement l'existence de cette application. Ce qui permet, un, de recruter des propriétaires de bornes, deux, des utilisateurs, et ceux qui ont déjà téléchargé l'application, de se dire « Ah oui, au fait, et si je l'utilisais pour mon prochain trajet entre Paris et Royan ?»
Et merci beaucoup. Et Nathan, maintenant, a une autre question. Donc cette fois-ci, pas sur Plugin, sur un autre dispositif que vous aviez mis, enfin que Renault avait mis en place. Il s'agit donc de Zity, qui était un dispositif d'autopartage de voitures électriques que, si je ne me trompe pas, vous avez lancé en 2022. Vous étiez implanté dans des grandes villes comme Paris ou Lyon. Et ce dispositif a finalement été arrêté en janvier 2024. Dans un article de l'Automobile et l'Entreprise, donc Nathan a vu que cet arrêt est en raison de l'impossibilité d'offrir un service de la plus haute qualité. Alors déjà, en quoi consistait exactement ce service d'autopartage de voitures électriques et quel enseignement cet arrêt vous a apporté pour vos développements futurs ?
Le cas de Zity est effectivement marquant. Et il est aussi désolant, je vais m'expliquer. Le service d'autopartage est assez simple à concevoir. Ce sont des véhicules qui sont équipés d'un système électronique pour pouvoir y accéder quand on veut à la demande avec une application. Le parcours utilisateur, le parcours client est très très bien fait. Moi-même, à titre personnel, je l'utilisais assez régulièrement. Le fait est qu'il y a de l'incivilité grandissante. Et les véhicules étaient saccagés. Voilà, donc ça, avec des véhicules saccagés, des véhicules sales, il était devenu impossible, l'équation était complexe, il était impossible de maintenir le parc en état. Donc on a essayé, on a duré le plus longtemps possible et quand il a fallu prendre ses responsabilités, eh bien on a pris ses responsabilités et le service a été arrêté. À regret, avec beaucoup de déception, parce que, encore une fois, quand on est porteur de cette mission inscrite dans nos statuts, la mobilité, c'est aussi ce type de service. C'est quand il y a des bâtons dans les roues qui sont, je ne dis pas inattendus, ils sont prévisibles, mais quand on est seul à lutter contre ce fléau, eh bien, à un moment donné, il doit y avoir une fin. Voilà. Donc, triste fin, triste histoire que ce service prometteur Ziti à Paris, eh bien, on espère que d'autres initiatives et d'autres idées permettront aux Parisiens, aux Franciliens de se déplacer de façon alternative et qu'il y ait une cohabitation paisible entre les piétons, les cyclistes, les automobilistes.
C'est intéressant, c'est vrai que quand on regarde l'évolution du parc Vélib, par exemple, on sait que le fabricant se désespère de le renouvellement qu'il doit faire du parc beaucoup plus rapide que prévu à cause de ces problèmes d'incivilité ou de maltraitance des matériels. Il y a sans doute effectivement un sujet aussi d'intérêt général à poser sur ces sujets-là, parce que si on ne peut pas réclamer d'un côté des services, moi aussi je l'ai utilisé ce service et avec beaucoup de plaisir, mais ça m'est arrivé aussi d'avoir une voiture dégradée et c'est directement la marque qui est incriminée et pas l'utilisateur précédent, même si c'est assez malheureusement corrélé.
Merci Bérénice de t'être faite le porte-voix de ces deux étudiants. Merci pour ces échanges, cher Laurent. Merci de
merci
t'être
David.
Prêté au jeu. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. En toute transparence, le podcast de l'ADEME, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous s'il vous a plu, à le liker, le partager et le commenter. Et à très vite pour de nouveaux épisodes.
En toute transparence a été créé avec le soutien de l'ADEME, de l'Union des marques, de l'ILEC, de l'ADETEM, de Citeo, de l'école Audencia et de l'agence Pixelis.
So Good Radio présente le numéro 11 du magazine So Good, avec au programme une question sacrément importante.
L'humour sauvera-t-il le monde ?
Spoiler, oui.
Et comment ?
La preuve en 25 pages et autant d'histoires. De Pierre Dac et ses interventions loufoques sur Radio Londres au ministre du numérique taïwanais qui bat les fake news à coups de chaton en passant par le roi des canulars téléphoniques anti-Bachar al-Assad.
Et c'est tout ? Juste de l'humour ?
Non, dans ce numéro, vous trouverez aussi des détenus en fin de peine en week-end chez l'habitant.
Ou une méthode révolutionnaire pour stocker la data dans les plantes vertes.
So Good, en vente partout chez vos marchands de presse.